le 13-14. Bruno Dubuc.
Et les dernières informations après le Conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement évoque le renforcement du pass sanitaire, l'accélération de la campagne de rappel. Les détails des nouvelles mesures, on les aura demain lors d'une conférence de presse qui sera tenue notamment par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Cette nouvelle vague de Covid qui touche toute l'Europe est bel et bien fulgurante en France. Plus de 2000 malades supplémentaires en un mois dans les hôpitaux. 30 000 nouveaux cas hier. Les chiffres ont doublé en 10 jours. Conseil de défense sanitaire, donc ce matin. Quelles nouvelles mesures cette offensive appelle-t-elle? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions. Notre invité jusqu'à 13h45 dirige l'unité Covid Pneumo du centre hospitalier de Toulon. Docteur Clarisse Audigier-Valette, bonjour.
Bonjour.
Et merci de répondre aux questions de France Inter. La situation dans votre hôpital d'abord, docteur, est-ce que vous aussi vous voyez arriver plus de malades et plus de personnes en soins critiques?
Alors, on voit, donc les indicateurs sont toujours un petit peu décalés, Vincent l'a déjà répété à plusieurs reprises, les indicateurs sont toujours décalés par rapport aux indicateurs épidémiques, mais effectivement, depuis une quinzaine de jours, on voit augmenter la pression des hospitalisations. On n'a pas encore une surcharge en réanimation, parce que là aussi, la réanimation est décalée. Donc, c'est plutôt au niveau des formes respiratoires, qui sont considérées comme des formes graves, Il faut bien recadrer ce que veut dire une forme grave. Une forme grave, c'est avoir besoin d'oxygène. Là, on a une augmentation. On était à une entrée par semaine il y a 15 jours. Et là, on est quand même à une à deux entrées par jour.
Ça s'accélère.
Ça s'accélère franchement avec une majorité de non-vaccinés, malheureusement.
Majorité de non-vaccinés. Néanmoins, avez-vous des patients vaccinés?
Alors, on a très très peu de patients vaccinés. On est vraiment à 90% de non-vaccinés. Dans les vaccinés, c'est soit des patients qui sont immunodéprimés et qui n'ont pas de réponse à la vaccination, des gens qui ont des maladies sévères, où là, quand on fait le dosage, la sérologie avec les fameux anticorps anti-S, ils sont négatifs. Donc, ça veut dire que la vaccination n'a pas pris. Ils sont comme des non-vaccinés, si vous voulez. Et autrement, dans les vaccinés avec des anticorps présents, c'est probablement c'est plutôt des patients qui sont un petit peu plus âgés et qui avaient une indication de troisième dose et qui n'ont pas eu encore le temps de la faire. Et à ce moment-là, ceux-là font des formes nettement moins sévères, avec souvent pas besoin d'oxygène ou 48 heures d'hospitalisation, histoire de voir qu'ils ne s'aggravent pas, vous voyez. Globalement, on est sur 90% de non-vaccinés.
On était en reportage dans le journal de 13h à l'hôpital d'Alençon où on commence à pousser les murs. Vous arrivez encore à l'hôpital de Toulon à accueillir tout le monde sans trop de difficultés, sachant on connaît le contexte, la fatigue des personnels, l'épidémie de bronchiolite, ça passe encore à Toulon.
Alors, on a toujours fait une stratégie. Dans notre établissement, on a toujours fait une stratégie de pouvoir avoir des services accordéon, en ayant une astreinte dédiée aux formes respiratoires pour pouvoir vraiment déterminer les indications d'hospitalisation et les raisons pour lesquelles on garde les patients ou on les garde pas. C'est l'occasion de rappeler qu'on ne met pas d'oxygène à domicile à la phase précoce dans le Covid. Il y a une particularité qui s'appelle l'hypoxie silencieuse. Les patients, même avec un saturomètre, ne se rendent pas compte qu'ils se dégradent sur le plan respiratoire et c'est là où on risque d'avoir des entrées en réanimation directe. Donc, en fait, on préfère les évaluer aux urgences, voir s'ils ont des critères de gravité et les hospitaliser si effectivement ils ont des signes respiratoires, des signes au scanner et la nécessité d'une dépendance à l'oxygène. Donc, en fait, on a une possibilité d'agrandir nos espaces d'accueil avec des cellules de veille qui sont organisées de façon hebdomadaire dans notre établissement, ce qui nous permet d'appréhender la montée en charge. En fait, quand on garde nos indicateurs, on se tient prêt.
Alors, beaucoup de questions, vous en doutez, au standard. Question d'Anne, d'abord, qui nous appelle de l'Ardèche. Soyez la bienvenue, Anne.
Merci, bonjour.
Bonjour.
Voilà, j'ai une question, c'est que les tests sont payants depuis le 15 octobre, 25 euros. Donc, il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas s'offrir ce test, d'accord? Et le chiffre d'hier, 30 000 nouveaux cas représentent donc des cas de gens qui ont pu se permettre de payer ce test. Donc ma question, c'est pourquoi ne pas remettre les tests gratuits? Et là, vous aurez les vrais chiffres.
Docteur Odigier Valette, deux questions. Test gratuit pour que les gens se testent plus volontiers. Et petit 2, est-ce que du coup on sous-estime l'ampleur de l'épidémie?
Je vais vous répondre parce qu'en fait c'est une très très bonne question, mais le postulat est inexact. En fait, les tests sont payants uniquement chez les patients qui sont non vaccinés pour des tests qu'on appelle de confort. À partir du moment où le patient est simple, donc pour les vaccinés, les tests sont remboursés. Mais pour les personnes qui sont non vaccinées, ils peuvent avoir accès aux tests dès qu'ils sont symptomatiques sur une prescription médicale. En revanche, on peut effectivement trouver un désavantage à avoir déremboursé les tests, sachant qu'à un moment donné, c'est vrai que pour les tests de confort et uniquement pour faire le pass sanitaire ou aller en voyage ou en boîte de nuit, effectivement, ça ne justifiait pas un remboursement. C'est que comme il faut être symptomatique pour aller se faire tester et que a fortiori c'est des non vaccinés, ils se testent moins, donc on n'est pas étonné d'avoir une remontée très brutale des indicateurs parce que justement ça reflète beaucoup plus l'émergence de l'épidémie, et c'est pour ça qu'on a une ascension de la courbe qui est très très rapide, alors que ça fait probablement plusieurs semaines que la remontée des indicateurs épidémiques arrive en sommeil.
On a une idée du pic déjà, ou c'est impossible à évaluer?
C'est assez difficile à évaluer justement parce que on n'a pas un testing exhaustif et que on a actuellement beaucoup de découvertes de positivité Covid de façon fortuite aux urgences et aussi des gens qui ne se testent pas parce qu'ils croient comme madame que le test n'est pas remboursé, alors qu'en fait s'ils sont symptomatiques avec une prescription médicale, le test est remboursé.
Gabriel Attal parle d'une accélération de la campagne de rappel à venir. De votre point de vue, ce rappel, la troisième dose, doit être élargie quoi ? Aux plus de 40 ans, à tous les adultes, quelle est votre position ?
Je pense que l'injection rappel a toute son importance afin de protéger au maximum la population, sachant que, si vous voulez, il faut vraiment recentrer l'indication de la vaccination. La vaccination protège des formes graves. La vaccination ne protège pas d'avoir systématiquement le Covid. Mais d'ailleurs, c'est pas l'objectif d'une vaccination. La vaccination contre la grippe protège également des formes graves. Et pas uniquement d'attraper un rhume. Donc il faut, oui, élargir le plus possible la vaccination sans la rendre obligatoire. Encore une fois, il faut arriver à faire comprendre que le message est sanitaire, le message n'est pas politique, le message c'est de protéger les gens, d'éviter les hospitalisations, et c'est ce que tous les patients non vaccinés que nous avons dans nos lits nous disent: si j'avais su que c'était ça une forme grave, si j'avais su que c'était ça d'avoir de l'oxygène pendant une semaine, si j'avais su d'avoir 40 de température ou de respirer à plat ventre, parce que les patients ne peuvent plus respirer, on les met à plat ventre pour qu'ils respirent mieux, puisqu'en fait ça fait diminuer les condensations et ça les ramène vers le bas, c'est une expression un petit peu cavalière, comme une boisson gazeuse à l'orange que l'Orangina, si on ne se coupe pas la pulpe, elle reste en bas, c'est exactement ça, d'accord ? Le Covid, on a besoin de respirer à plat ventre, c'est une situation qui est excessivement inconfortable en hospitalisation, c'est ça une forme grave. Donc il faut éviter les formes graves. Les formes graves, ce n'est pas que la réanimation, elle est morte. Donc il faut vraiment communiquer sur l'intérêt de la vaccination dans la protection.
À propos de vaccination, question de Philippe au standard. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, c'est à propos de la troisième dose également.
Alors voilà, il y a deux jours, j'ai entendu sur France Inter, c'était le téléphone sonne avec un professeur qui s'appelle Daniel, je crois, son nom de famille. Il a dit quand on avait eu le Covid et qu'on a fait la première dose, en fait, on a, au stade actuel, il dit on n'a pas besoin de faire une troisième, une deuxième injection pour moi, quoi, pour nous, quoi, si vous voulez.
Alors, docteur Odigier Valette, si on a eu le Covid et qu'on a fait une injection de vaccin, est-ce qu'on peut avoir le rappel, en quelque sorte ?
Alors, c'est également une excellente question. Les recommandations de la HAS ont été modifiées le 19 novembre, donc c'est très complexe de suivre, pour ceux qui ne sont pas dans le métier. Dans le métier, c'est compliqué, mais alors pas dans le métier, c'est encore plus compliqué. Donc, effectivement, lorsqu'on a fait en premier un Covid sans avoir été vacciné, ensuite on a besoin d'une seule injection rappel. Et il n'y a plus besoin de faire de rappel. On est protégé de façon vraiment pérenne parce qu'on a les anticorps qui ont été fournis par la maladie du Covid, auxquels on va rajouter ceux qui sont fournis par la vaccination. Et là, cette immunité, elle est excessivement solide. D'accord ? Oui. Donc il n'y a pas besoin de faire une autre injection derrière. En revanche, il y a des sociétés de transport aérien ou des pays qui n'acceptent pas cette stratégie-là et qui demandent d'avoir deux vaccinations. Donc, il n'y a pas de danger à faire un rappel, mais il n'est pas obligatoire pour la protection. Donc, on peut faire le rappel parce que, et c'est pour ça, c'est dans les recommandations de la HAS, c'est bien spécifié. Si pour des raisons touristiques, les personnes ont besoin d'une injection rappel pour que leur passe sanitaire soit valide à l'étranger, elle peut être faite. Mais elle n'est pas nécessaire pour la protection.
Réponse parfaitement claire. HAS pour Haute Autorité de Santé. Madeleine au standard. Bonjour Madeleine. Est-ce que Madeleine est au standard avec nous ?
Le gouvernement a tout misé sur la vaccination et le pass sanitaire, c'est peut-être bien. Mais alors ce message, il a laissé croire vraiment que la vaccination et le pass sanitaire, c'était un sésame dispensant des gestes barrières pour tous, vaccinés ou non, contrairement aux avis des scientifiques. Alors pourquoi ne pas imposer beaucoup plus les gestes barrières comme le préconisent justement les médecins, alors que ils ne sont plus, par exemple, dans un concert, j'ai deux exemples précis, même trois, concert du chanteur que je vous nommerai quand même pas,
on a
dit que c'était pas la peine de mettre le masque. On demande le pass sanitaire, les gens sont rentrés avec un pass sanitaire, mais pas de masque. Conclusion, il y a eu, je ne sais pas combien, il y a eu un cluster énorme, je connais des gens qui y étaient, match, pareil, pas de masque.
Docteur Odigier Valette.
Pas sanitaire, mais pas de masque. Donc.
Merci Madeleine pour votre question. On a bien compris le sens. Docteur Odigier Valette, est-ce qu'il faut renforcer le port du masque et par exemple dans les lieux où il y a même pas sanitaire?
Je crois qu'il faut revoir la terminologie du pass sanitaire. En fait, le pass sanitaire, si vous voulez, il y a le pass vaccinal qui effectivement permet d'avoir que tout le monde soit protégé. Dans le pass sanitaire, si effectivement il n'y a pas les mesures barrières, ceux qui sont en danger, c'est ceux qui sont pas vaccinés. Mais encore une fois, s'ils étaient vaccinés, ils ne seraient pas contaminés. Donc on a toujours cette rhétorique où les non-vaccinés ont été contaminés par des vaccinés. Oui, par des vaccinés ou par des non-vaccinés, mais à la fois, quand on a atteint 85% de la population cible vaccinable, il faut s'attendre effectivement à se trouver en présence de nombreux vaccinés. Donc je crois qu'encore une fois, c'est qu'il faut remettre dans le débat le problème sanitaire, à savoir que le vaccin protège et que parler du gouvernement dans une politique vaccinale, c'est allier le sanitaire à la politique, alors qu'en fait, le message, c'est que la vaccination protège. On n'a jamais fait autant de débats politiques sur la vaccination de la grippe ou la vaccination de la varicelle.
Néanmoins, docteur, pour l'instant, le pass sanitaire, par exemple, si je vais au cinéma, je montre mon pass sanitaire, ça veut dire que soit j'ai été vacciné, soit je suis rétabli du Covid, soit j'ai fait un test très récent. Est-ce que on doit obliger, même avec le pass sanitaire, à porter le masque dans les théâtres, au cinéma, dans les salles de concert, etc.
De toute façon, les mesures barrières, si vous voulez, dans les endroits confinés, elles devraient être naturelles et spontanées. J'aime pas le terme obligé, c'est que les gens doivent bien arriver à un moment donné à comprendre que quand ils sont dans un endroit fermé, ils sont en danger, quel qu'il soit. Donc, ils sont en danger. S'ils sont pas vaccinés, ils sont en danger d'être contaminés. D'accord? Donc, s'ils sont en danger d'être contaminés, ils sont en danger de contaminer eux aussi d'autres personnes. Des personnes vulnérables, des personnes qui ne réceptionnent pas la vaccination parce qu'ils sont immunodéprimés. Donc, c'est aussi protéger l'autre. Donc, la mesure barrière, c'est protéger l'autre. Mais après, il n'y a pas besoin d'avoir une obligation. C'est logique. Dans les pays nordiques, les gens, ils rentrent, ils mettent leur masque. Quand on est dans un endroit fermé, on rentre, on protège l'autre. La vaccination, elle est pour se protéger soi, et les gestes barrières, c'est pour protéger l'autre.
Docteur Odigier Valette, il nous reste moins d'une minute. Question sur les enfants, la vaccination des enfants. Les États-Unis et Israël y sont passés. Qu'en dites-vous pour la France ?
Alors, je pense, encore une fois, je suis pas pédiatre, donc ça c'est le type de question auquel je réponds pas. Sur la dissémination, il est clair qu'on peut pas dire que les enfants ne transmettent pas. C'est un problème à l'école. Est-ce que c'est une priorité de vacciner les enfants avant d'atteindre notre cible vaccinale adulte? Je crois que déjà, si on atteignait notre cible vaccinale adulte, on serait en nettement moins grande difficulté dans la gestion de l'épidémie et l'attention hospitalière. Après, sur l'intérêt de la vaccination des enfants, ça, il faut voir au prorata des formes graves et de la dissémination.
Merci, docteur Odigier Valette, responsable de l'unité Covid-Pneumo à l'hôpital de Toulon, d'avoir répondu aux questions des auditeurs de France Inter.